Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, l'émission sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et ce soir, comme tous les mardis à 20h30, c'est Radio Libertariale, l'émission de la CNT Région Parisienne. Et le deuxième mardi du mois, comme d'habitude, c'est la CNT Éducation Région Parisienne qui tient l'antenne avec Pascal à la technique. Et ce soir, plusieurs invités.
Salut.
Pour parler des deux thèmes qui vont nous occuper. D'abord, on va parler de la sortie du nouveau numéro de la revue Notre École, avec Pascal Lemême, qui en plus d'être à la technique ce soir, fait partie du comité de rédaction, et avec Anne-Julie, qui a participé à l'écriture d'un des articles, et qui est là en tant que parent d'élève, puisque le thème de ce numéro de Notre École, c'est école et famille. Famille et école, plutôt. Nous expliquer. Alors donc Pascal, toi tu fais partie, t'es un peu essoufflé, tu veux que je te laisse reprendre ton souffle?
Non mais c'est parce qu'il y avait des petits problèmes à la technique avec les fichiers audio qui étaient prévus mais qui passeront pas ce soir.
Bon eh bien tant pis.
Ce sera pour la prochaine émission. C'est dommage, j'étais sur les devoirs à la maison et je pense que ça nous aurait intéressé. Mais j'en parlerai au moment voulu et tu nous diras ce qu'il y avait dedans.
D'accord. Donc Pascal, tu fais partie depuis déjà 2 ans, non?
Eh oui.
Du comité de rédaction de Notre École. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Parce que je pense pas qu'il y ait énormément de revues, surtout de revues de cette qualité, voilà. Qui soient complètement autogérées et qui fonctionnent.
Donc Notre École, c'est une revue qui marche depuis 10 ans, c'est la revue de la Fédération des Travailleurs de l'Éducation de la CNT. Donc au sein de la Fédération des Travailleurs de l'Éducation, on s'est doté de cet outil, avant que j'arrive d'ailleurs, hein, c'est depuis 10 ans maintenant. D'ailleurs, on va sortir une anthologie pour les 10 ans de Notre École, avec des gens qui ont choisi des articles qui les ont particulièrement marqués au cours des sorties des numéros successifs. Donc là, on en est au numéro 30. C'est 3 numéros par an, hein. C'est une revue trimestrielle où on zappe évidemment le trimestre pour lequel on n'a pas que ça à faire, c'est-à-dire qu'on a quand même des vacances dans l'enseignement.
Donc comme dans l'année scolaire, il y a 3 trimestres et pas 4.
Exactement, il n'y a que 3 trimestres dans une année, c'est bien connu. Et on sort donc 3 numéros par an, et c'est déjà pas mal. Ça fait une revue qui est faite évidemment par des militants de la CNT, Fédération des Travailleurs de l'Éducation. Donc en plus de leur travail, vu qu'on n'a pas de décharge syndicale, enfin, pas encore, ça va peut-être venir un jour.
On n'en aura pas.
Quand on sera grand. Et donc c'est une revue qui demande... pas mal d'investissements militants, vu qu'on essaye à la fois de rendre compte de nos idées qui sont révolutionnaires, mais aussi pédagogiques. Et on essaye de pas séparer le côté syndical du côté pédagogique. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur de quasiment tous les militants à la Fédération, de pas séparer le pédagogique du syndical. En effet, militer pour l'école, à l'école... C'est quelque chose qui se conçoit en tant que travailleur de l'éducation. Donc, pour la plupart, on est enseignant, mais pour la plupart, on est aussi parent d'élèves ou on est ouvrier, technicien ou des choses comme ça. Et autour de tout ça, c'est surtout la question, qu'est-ce qu'on veut comme école? La seule réponse qui peut être simple à donner, c'est pas celle-là. Et maintenant, à partir de là, pas celle-là, et ben oui, mais laquelle? Alors, il faut explorer des pistes, il faut ouvrir. Donc la revue est ouverte à beaucoup de contributeurs, hein, qu'ils soient à la CNT ou non, n'importe pas, qu'ils soient parents d'élèves, enseignants, techniciens, ouvriers, n'importe pas. Ce qui est important, c'est surtout quel apport les gens peuvent avoir sur les idées, les ouvertures et sur ce que devrait, pourrait être l'école pour changer, parce que bon, aujourd'hui on a affaire à une école de tri social, une école de la sélection, de l'évaluation, une école capitaliste, une école qui maltraite les élèves, une école qui maltraite aussi ses personnels. Donc en tant que syndicaliste, évidemment, on va axer sur le côté maltraitance du personnel, vu que c'est un peu la base du syndicalisme, mais sans l'aspect maltraitance des élèves, le syndicalisme n'a pas beaucoup de sens pour nous. Donc on s'est beaucoup investi sur le côté pédagogique aussi.
Alors justement, à propos de la revue et à propos de pédagogie, j'en profite pour signaler la sortie du livre de Grégory Chamba, qui est un des membres plutôt actifs,
hein, fondateur, on peut dire. En
plus. Et fondateur. Non, un des piliers du comité de rédaction de Notre École, et qui écrit depuis le début de Notre École des chroniques sur l'éducation qu'il a rassemblées dans un ouvrage.
Elles ne sont pas toutes de lui, je crois.
Il est le seul à signer. Bon, on lui demandera.
Ah, peut-être.
En tout cas, il parle...
Ça prouve qu'on ne l'a pas lu.
Bah, il vient de sortir, il est sorti il y a 10 jours. Donc, laissez-nous le temps. De toute façon, on en reparlera bien plus longuement, ça c'est certain.
Ah bah, à chaque émission pendant 2 ans, il va avoir droit à sa pub. Hein.
Voilà, on va même essayer de l'interviewer. Donc, mais juste pour ceux qui sont impatients et qui ne veulent pas attendre l'émission, on en parlera plus profondément, et qui veulent rencontrer Grégory et parler de son, l'entendre et discuter avec lui de son livre Pédagogie et Révolution, donc qui passe en vue un peu différents courants pédagogiques et qui reprend des chroniques qu'il a fait paraître dans notre école. Il y a une rencontre qui a lieu demain soir.
C'est la semaine prochaine.
C'est mercredi 16 novembre à 20h30 à la CNT, donc 33 rue des Vignoles. Et donc voilà, c'est ceux qui veulent rencontrer Grégory, discuter avec lui, bah ils sont les bienvenus. Et puis bien sûr, ils peuvent aussi voir un petit peu à quoi ressemble le livre et même le commander, soit sur le site de notre école, il suffit de taper notre école, soit sur le site des éditions Libertalia qui ont édité cet ouvrage.
Voilà, par ailleurs, donc c'est édité par un camarade, donc c'est un camarade qui a écrit un bouquin édité par un camarade, deux raisons de l'acheter.
Exactement.
C'est pas une radio sans pub. Hein.
Ah, tiens, à propos de publicité, je peux peut-être dire maintenant que ceux qui veulent soutenir Radio Libertaire peuvent acheter leur carte d'auditeur à la librairie Publico.
145 rue Amelot.
Merci Pascal. Voilà.
Et alors, acheter des livres avec 5% de réduction.
Grâce à leur carte d'auditeur, bien sûr.
On fait de la pub, on fait de la pub jusqu'au bout. Hein.
Donc Radio Libertaire, la radio pleine de publicité. Donc on va continuer la publicité pour le numéro 30 de la revue Notre École. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi le comité de rédaction a eu envie de partir sur ce thème?
Voilà, le choix des thèmes, c'est toujours quelque chose qui prend déjà pas mal de temps. L'école, c'est tellement de choses à la fois. Donc sur les 30 numéros, on a traité de lutte, de genre, de sujets qui sont à la fois très proches de l'école et parfois un petit peu plus éloignés, mais comme l'école est quelque chose de très ancré dans la société, tout a un lien avec l'école. Et là, on est parti sur les relations entre l'école et la famille, et les familles. Vaste sujet, mais finalement sur lequel où les articles sont tombés assez facilement. Enfin, je crois que les relations école-famille sont quelque chose d'assez conflictuel. Et les conflits école-famille ressortent très rapidement dans le numéro. Je pense qu'on va parler plus longuement du premier article qu'on a coécrit avec Anne-Julie ici présente.
Parents de la goutte d'or.
Voilà, sur notre expérience en tant que parents et puis surtout l'expérience de nos enfants en arrivant à l'école élémentaire. Et il y a beaucoup de petits témoignages, d'actes de résistance, de tentatives de faire une autre école, qui sont toujours discutables hein, au sein de la revue. Il n'y a pas de dogme, hein, il n'y a pas de ligne éditoriale. Il y a évidemment des idées sur lesquelles on ne transigera pas. Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table.
Il y a quelques points de consensus, mais effectivement,
il y a des points de consensus très clairs. En particulier, par exemple, dans cette revue, il y a un article sur SOS Éducation. Contre SOS Éducation, voilà, parce que vu qu'eux, ils n'auront jamais le droit d'apparaître dans nos lignes par leur propre plume, évidemment. Enfin, les réacs.
Juste SOS Éducation, c'est une. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est?
Une vitrine. Bon, je ne sais pas si le mot fasciste est adapté, mais...
D'extrême droite, en tout
voilà,
cas,
d'extrême
ça c'est
droite,
très clair.
On en est, où, au mieux, très réac, au pire, carrément facho. Et donc, au sein de SOS Éducation, il y a de toute façon ces deux tendances, entre le très très réac et le carrément facho. Et ils font beaucoup de lobbying auprès des parents d'élèves, et de plus en plus aussi auprès des profs qui ont besoin d'autoritarisme. Comme beaucoup de syndicats d'ailleurs appellent au retour de l'autorité du prof, etc., etc. SOS Éducation en fait autant. Ils sont très, très entendus sur ce genre de discours.
C'est ça, ils ont des campagnes de communication assez efficaces par internet et qui surfent sur des sujets qui sont très en vogue effectivement sur ce retour de l'autorité, le laxisme, la démission des parents justement et autres. La violence évidemment.
Voilà, leur dernière campagne est assez axée justement là-dessus, sur les agressions à la sortie des collèges, on ne peut pas tolérer ça, etc. Gna, gna, gna. Et ils partent de là, et derrière, ils balancent toutes leurs idées ultra-réac, anti-syndicales, anti-grève, etc. Parce qu'il y a tout ça hein, dans le discours d'SOS Éducation, donc ça peut aller assez loin. Donc voilà, ce genre de personnes n'auront jamais leur plume dans notre école. Sinon, à partir de là, on a donné la parole et la plume à des gens très différents. Là, je vois, bon, comme ça, en feuilletant très très rapidement des trucs sur le financement
des associations, des parents associations parents d'élèves.
Pour aider les gens à acheter leur fournitures ou des choses comme ça. Il y a des trucs très...
Oui, c'est un mélange à la fois d'expériences concrètes et aussi de réflexions plus théoriques ou de compte-rendu d'études sociologiques.
Un article génial, passionnant, d'Anne Kerrien sur l'école et les pauvres, par exemple, qui est vraiment très intéressant.
Très intéressant.
Un article sur le lycée de la Villeneuve à Grenoble, qui a été en lutte contre sa fermeture, donc avec des choses très intéressantes dedans. C'est une expérience de lutte, hein, donc avec ses échecs et ses réussites, avec son vocabulaire propre. C'est très intéressant, la Villeneuve, parce que c'est le quartier à la suite duquel Sarkozy a prononcé son fameux discours de Grenoble l'année dernière, qui a un discours très clair sur les classes dangereuses. C'était après des émeutes, donc les classes dangereuses étaient clairement identifiées comme celles des quartiers pauvres. Des tas d'articles comme ça qui sont très intéressants. Un article sur Bas Élèves dont on a beaucoup discuté dans cette émission depuis 2 ans. Bas Élèves, donc, qui est l'outil de fichage des enfants. Donc un petit rappel historique sur Bas Élèves. Là, un truc sur l'absentéisme et un article qui va faire beaucoup plus polémique sur la scolarisation à domicile.
Avec du coup un contrepoint, parce qu'y compris au sein du comité de rédaction, il n'y avait pas unanimité sur la scolarisation à domicile. Voilà. Donc, ça a
été. Peut-être avoir
publié.
Le débat ce soir, je ne sais pas si.
On pourra éventuellement en parler.
Une édition sur les livres pour enfants.
Il y a beaucoup de notes de lecture, de livres pour adultes aussi d'ailleurs, généralement autour de l'éducation, mais également pas mal de choses, pas seulement d'ailleurs, mais beaucoup
sur
de
la pédagogie aussi. Ouais. Tout ce qui nous intéresse essaye d'être dans la revue. Et il y a aussi un article sur une expérience d'école franco-danoise à Copenhague qui est assez amusant. C'est une école qui a été fondée par un camarade et avec quelqu'un d'autre, je crois, et qui a complètement foiré parce que c'était financé en fait par un bourgeois qui voulait faire une école de bourgeois. Donc. Ça a un peu clashé cette histoire.
Avec justement l'ambiguïté des projets pédagogiques dans des structures privées qui peuvent correspondre à nos idées, mais avec un fonctionnement et une administration qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut et qui ne touche pas forcément un grand nombre d'enfants.
Voilà, sinon on a une interview de personnes qui ont travaillé sur la relation entre les parents et l'école, et puis beaucoup de notes de lecture, et comme tu disais, une note de lecture sur un livre qui s'appelle Pédagogie et Révolution de Grégory Chambat, c'est étonnant.
Ça me rappelle quelque chose.
Et puis une petite dernière publicité pour finir, une publicité, on a demandé à Pauline Christophe qui fait des conférences gesticulées, qui est un peu dans la lignée de Franck Lepage de la SCOP Le Pavé, qui fait des conférences gesticulées, donc qui sont des spectacles, des one man, one woman show qui traitent d'un thème toujours militant, et elle a une conférence gesticulée sur l'école où elle raconte un peu son expérience d'institutrice, donc en tant qu'institutrice en formation, puis institutrice en exercice, et surtout pourquoi elle a arrêté, voilà. Pourquoi elle s'est mise en disponibilité suite à ça.
Donc Pauline qui a lancé presque, c'était une de ses premières, sa conférence gesticulée lors d'une fête de solidarité pour alimenter la caisse de grève des enseignants parisiens. Donc quelqu'un
Merci
de sympathique.
Pauline.
Merci Pauline. On continue avec cette discussion autour du numéro de notre école, du numéro 30, École et Famille, qui est le monstre de l'autre. Et donc le numéro s'ouvre par un article intitulé « Parents de la goutte d'or ». Donc cet article a été écrit par Anne-Julie et Pascal, qui se sont connus comme parents d'élèves et dans une école de la Goutte d'Or. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'écrire cet article quand Pascal, j'imagine que c'est toi qui en as parlé à Anne-Julie.
C'est pas mon genre.
T'as commencé à parler à savoir qu'on allait travailler sur l'école et la famille.
On en avait déjà parlé
On en parle forcément parce qu'on le vit au quotidien. Du coup, on s'est rencontrés dans une école maternelle de la Goutte d'Or, une école assez sympathique. Une école assez sympathique et très, attentive sur toutes les luttes qui peuvent se dérouler dans un quartier populaire, et particulièrement sur la question des parents sans papier. On s'est rencontrés en manif, quoi. En gros, on est sortis de l'école pour aller manifester tous ensemble, et forcément, ça crée des liens. Et donc, on en parle un peu au quotidien. Moi, ce qui m'a donné envie d'écrire sur le sujet, c'est le décalage entre cette école maternelle qui était ouverte et communicante envers les, les parents pouvaient non seulement se retrouver sur des causes communes avec des projets collectifs, faire la fête aussi et apprendre à découvrir le quartier autrement, tandis que l'école primaire, l'entrée en CP de nos filles respectives a été une espèce de grande claque avec la porte qui se ferme sur le nez des parents et c'est sur ce décalage là qu'on s'est dit qu'on avait envie de réfléchir et de donner notre témoignage, quoi.
Ouais, parce qu'on a, en fait, les deux écoles sont très proches, hein, c'est deux rues parallèles, il doit y avoir entre la fin de la cour de l'une et la façade de l'autre, il y a 4,50 mètres, quoi. Donc on pouvait imaginer un truc qui soit un peu similaire, le prolongement de l'autre, etc. Sauf que on s'est pris, oui, complètement une claque.
On dit ça, mais en fait, c'est pas vrai. On le savait très bien parce que l'école maternelle est une vraie école de quartier, mixte socialement, etc. Tandis que l'école primaire, on savait qu'elle était désinvestie par les classes moyennes et supérieures depuis au moins 10 ans.
Supérieures, il n'y en a pas beaucoup dans le quartier.
C'est vrai, mais ils préfèrent traverser le boulevard Barbès pour aller dans les écoles du bas de la butte, quoi.
Dans le bon 18e, comme disent les agents immobiliers.
Ouais. Voilà. On appelle ça le côté sombre, hein, chez nous.
Ouais.
Et donc, du coup, on savait très bien que c'était un quartier désinvesti, enfin une école désinvestie, et on était.
Le ravitaillement.
On était plusieurs familles à avoir envie de rester et d'investir l'école primaire, mais on était, je sais pas, une dizaine de familles à peu près.
Bon,
c'est autre chose
groupe,
d'y aller tout seul que d'y aller en collectif, quoi.
Quand tu dis une dizaine de familles, c'est en gros une dizaine de familles blanches classe moyenne, quoi.
Pas forcément, en fait, dans le groupe qui se connaît bien, il y a un peu, il y a peut-être majoritairement, disons, la moitié qui sont classe moyenne blanche, l'autre moitié qui sont soit classe moyenne pas blanche, soit classe pas moyenne du tout, et blanche ou pas. Mais de gens qui se connaissaient bien depuis longtemps et avec qui on parlait. Et on a décidé ensemble de rester ensemble, justement, donc d'aller à l'école d'à côté. Il y en a qui se posaient sérieusement la question de pas y aller, en fait. Donc nous qui nous posions pas du tout la question de pas y aller, pour nous c'était très clair qu'on restait dans le quartier. On a discuté comme on discutait toujours, parce que cette école maternelle était ouverte. En même temps, la maternelle, c'est quand même une école qui est faite pour le bien des enfants, contrairement à l'école élémentaire. Donc c'est vrai que si c'est fait bien pour le bien des enfants, les parents s'y sentent plus à l'aise aussi, etc. Donc on parlait vraiment beaucoup avec les gens. Après, même avec les gens qu'on connaissait moins, on s'est mis à faire, on faisait régulièrement des réunions, donc le sujet est venu sur le tapis dans des réunions. Les instits ont organisé le passage d'une école à l'autre qui se faisait mieux avant nous. En fait, c'était difficile parce que le directeur était une ordure.
Le directeur de l'élémentaire ?
De l'élémentaire, ouais. Mais par contre, il y avait une équipe de profs, en particulier en CP, qui était beaucoup plus accueillante, avec d'ailleurs une ancienne prof de CP qui était passée en maternelle, donc qui faisait le lien facilement avec ses anciens copains, etc. Et puis quand ces deux-là sont partis, quand les deux instituts de CP étaient partis, complètement dans un autre quartier, on s'est retrouvés avec une liaison qui se faisait plus du tout. Donc c'est les parents qui ont fait la liaison. Donc entre ceux qu'on connaissait, qui étaient partis l'année d'avant, qui commençaient à nous dire « Ah, c'est la merde, on peut pas parler, on peut pas rentrer », etc. Nous qui voulions vraiment y aller, etc., on a essayé de faire ce lien, et on s'est pris une claque.
Et ça, c'est déjà intéressant comme exemple par rapport à cette espèce de fantasme et de frayeur qu'il y a de la part de beaucoup de parents par rapport à certaines écoles, qui du coup ont des stratégies d'évitement, déjà en école primaire et encore plus au collège, où ça devient vraiment catastrophique. C'est intéressant aussi cette expérience de collectif pour justement rompre un peu cette logique d'évitement et donc de ghettoisation des écoles de quartier.
Ouais, si nous on démissionne,
il reste plus personne, quoi.
Après, ça empêche pas que, comment dire, enfin, il y a quand même énormément de personnes qui mettent pas leurs gamins dans cette école-là, dans ces écoles-là. Enfin, tu vois, ça, c'est pas parce que nous on y est allé que ça a révolutionné. Ce que ça a changé massivement.
On a triplé l'effectif des classes moyennes dans l'école.
Enfin, oui, mais comme il y en avait zéro sur 0 fois 3,
il y en avait toujours un ou deux.
Il y en avait un, donc ça fait 3 sur 100. Ouais. Mais c'est toujours tout petit. Par contre, ce que ça a changé, et ça me permet d'embrayer sur l'article qu'on a essayé, enfin qu'on a écrit avec Pascal. Ce que ça a changé, c'est le conseil d'école. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de ne pas avoir de parents élus, ou des parents élus fictifs qui ne se présentaient pas au conseil d'école et qui n'investissaient pas les lieux de décision. Et là, ils se sont retrouvés avec une dizaine ou une quinzaine de parents qui posaient des questions, qui avaient des choses à dire, qui avaient des envies, qui avaient des projets à monter. Et là, on s'est retrouvés devant une équipe pédagogique qui a eu particulièrement peur de nous. Enfin, maintenant,
on arrivait avec nos sabots.
Ça va un peu mieux parce que ils ont compris qu'on n'était pas des monstres, mais au début, ça a été
tendu et fermé.
Ce qui veut dire à quel point l'école peut vivre en autonomie, dans un vase clos, quoi. Ils nous montraient clairement qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Ça faisait déjà 20 ans qu'ils faisaient sans nous et il ne fallait pas qu'on y mette un pied, quoi.
Enfin, ça dépendait pourquoi. Enfin, bon, on y reviendra.
Eddy, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, j'avais une petite question pour Marie-Julie parce qu'il y a eu l'ambiguïté.
C'est Julie, mais...
sur l'ambiguïté de l'usage du mot d'autonomie que tu viens d'avoir tout à l'heure, tu parlais de cette porte qui se claque au nez des parents. Donc je sais que je te provoque, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça participe pas à l'autonomie du gamin finalement avec parce que bon, tous les parents sont pas forcément les meilleurs accompagnateurs non plus à toutes
ça,
les étapes.
Ça, c'est tu évident.
Vois, il y a aussi ce rôle-là de la porte qui protège aussi, quoi.
Ça c'est évident et c'est intéressant, c'est important que les mômes ils entrent dans des mondes différents et qu'ils apprennent dans ces mondes différents d'autres choses que ce qu'ils apprennent à la maison. Ça c'est sûr, mais si on apprenait à ma fille à devenir autonome, je serais contente, tu vois. Il y aurait moins de... Là, on lui apprend, c'est ce qu'on a écrit dans l'article, on lui apprend la compétition. Un des premiers nouveaux mots qu'elle a ramené à la maison à l'entrée en CP, c'était faut pas tricher, quoi. Donc elle me montrait qu'il fallait mettre son coude sur son cahier, tu vois, pour pas que le voisin il regarde comment on écrit, comment on copie, voilà. Donc enfin tu vois, la triche est là. Donc c'est ça qu'ils apprennent, c'est pas tant l'autonomie et l'autonomie au dans le bon sens du terme, comme on pourrait nous définir ce qu'on attend de l'évolution de nos mômes, quoi. C'est vas-y Pascal, si tu...
Ouais,
c'est vrai que ma langue a fourché. Enfin,
non, mais c'est plus un problème de vase clos que d'autonomie, je pense, parce que l'autonomie va avoir d'autres sens en l'occurrence. Donc, mais l'école fonctionne sur elle-même, et sauf que l'école elle est en échec depuis toujours, et c'est volontaire parce qu'elle a été fondée, l'école telle qu'on la connaît, par Jules Ferry, dans le but de faire un tri social. Donc l'échec de ce genre d'école qui est dans un quartier particulièrement défavorisé. Enfin, disons, à dominante défavorisée, il est avéré, et l'école a été faite pour que ce soit un échec. Maintenant, nous, on y va aussi pour que ce soit pas un échec. Enfin, moi, de toute façon, le quartier, j'y vis. Je profite des loyers intéressants du quartier. Il n'y a pas de raison que j'y vive pas dans le quartier. Donc, qu'on aille après, tous les matins, prendre le métro pour aller avec des bourgeois dans une école où, en plus, d'ailleurs, ils seront 30 par classe, où les gens seront pas intéressants, etc. Là, on avait vraiment un truc super intéressant en maternelle, c'est que on se retrouvait avec les parents à tous parler. Mais les gamins, ils le voient que leurs parents y parlent, quoi. Que le petit blanc, il est pote avec le petit noir, dans les parents. Et donc, les enfants, ils peuvent se parler aussi. Il y a pas de... On avait réussi à faire en sorte que les parents aussi montrent l'exemple d'une société ouverte, d'un quartier ouvert, où les gens se respectent, où il n'y avait pas de problème de religion, enfin aucun problème de religion dans cette école, aucun, quoi. Enfin, dans l'école maternelle, il y a eu zéro problème de religion. Et alors qu'on entend parler des problèmes de religion à la goutte d'un chien, il n'y a que dalle. Par contre, après, si tu fermes la porte aux parents, les parents ils se parlent plus. Et si les parents ils se parlent plus, le risque c'est que les gamins se parlent plus non plus. Que on ferme on ferme la porte et on ferme au quartier, et bah finalement les gens ils s'enferment chez eux. Et moi je vois, je suis dans un immeuble un peu bourgeois sur le boulevard Barbès, donc un immeuble type haussmannien avec des proprios, quoi. Enfin, il y a 2-3 locataires dans l'immeuble, sinon tous les autres c'est des proprios. Et le truc, c'est comment faire pour que les codes soient plus efficaces, pour pas que les gens y rentrent, quoi. Sauf que les gens, ils rentrent, il y a un médecin, tu vois, donc faut bien qu'ils aillent se faire soigner, mais non, quand même, c'est un problème qu'il y ait un médecin, c'est un problème qu'il y ait des gens, c'est un problème. Et bah, tout ça, ça avait pas lieu à l'école maternelle parce que les gens, ils se parlaient, tout simplement. Et puis, quand les gens, ils se parlent, bah, il y en a qui deviennent copains, il y en a, bah, ils deviennent pas copains, c'est la vie, quoi. Mais, et puis, il y avait tout un groupe comme ça de parents où tout le monde se connaît, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, et on se fait la bise le matin en arrivant. Et bah, les gamins, bah, résultat, ils se connaissent bien. Quand on va prendre un goûter chez l'un, bah, les gamins, ils jouent ensemble, etc. Et donc, c'est pas un acte militant, c'est un acte complètement humain. Et en fait, l'école empêche, l'école primaire, élémentaire, pardon, à empêcher cet acte humain. Et le fait d'empêcher cet acte humain, c'est ça le problème qu'on soulève, en fait.
Eddy ?
Oui, souvent on constate dans les organisations de parents d'élèves, moi j'ai juste des souvenirs d'élèves, mais la représentation a quand même tendance à aller vers le plus présentable. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méfiance légitime de la part d'équipes enseignantes, et je fais volontairement le naïf, mais de se retrouver à mettre en place des dispositifs de participation avec des parents d'élèves, où les inégalités culturelles face à la prise de parole, etc., feraient que finalement on n'arriverait pas à intégrer les parents les plus exclus, et que finalement on donnerait du pouvoir justement à la minorité qui voudrait améliorer le code ? Pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure.
Ouais, c'est un vrai questionnement. Ouais,
la question, qui est le monstre de l'autre, hein. C'est vraiment ça. Enfin, nous, c'est la question. Quand on nous a fermé la porte au nez, c'était eux les monstres pour nous. Mais en même temps, s'ils nous fermaient la porte au nez, c'est peut-être qu'on était un peu leur monstre. Et d'ailleurs, on a eu à un moment une très courte fenêtre où on s'était dit, les parents, ils peuvent rentrer dans la cour. Pour aller chercher leur môme, ils peuvent rentrer dans la cour. On a lutté pour avoir ça. Il y a eu des engueulades et tout avec l'équipe, etc. Et ça a duré un mois et demi ou un truc comme ça. Et puis il y a eu une embrouille avec une maman qui est devenue complètement tarée parce qu'elle venait de se faire enlever ses gamins. Et elle est venue, elle était hyper violente, elle a frappé l'assistante sociale, elle a frappé un parent d'élève qui s'est interposé. Enfin, d'ailleurs, heureusement qu'il s'est interposé, mais bon, ça, ils n'ont jamais voulu l'entendre. Ils en ont profité pour refermer la porte. Ils ont refermé la porte. Et résultat, je pense que ça n'empêchera pas ce genre de problème, parce que de toute façon, il suffit de sonner, la porte, elle s'ouvre. Si tu veux casser la gueule à quelqu'un dans l'école, c'est facile, hein. Tu sonnes, ça s'ouvre. Donc, c'est les gens qui veulent faire du mal qui pourront rentrer. Ceux qui juste voudraient aller chercher leur enfant, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, ils ne rentrent pas, donc ils ne se parlent pas, donc etc. Finalement, moi, les gens avec qui je parle, quand je vais à l'école chercher ma fille, c'est ceux que je connais déjà depuis la maternelle. Donc il reste ce petit groupe, mais on ne s'ouvre pas à de nouvelles personnes. Quant à la représentation, en effet, qui se présente aux élections, on a presque galéré pour avoir des noms blancs, tu vois.
C'est un grand
mais
débat,
voilà, c'est, combat, c'est les gens qui savent parler, qui savent écrire, qui sont allés à l'école, qui n'ont pas peur de parler à des profs. Donc, d'ailleurs, on est plusieurs profs dans le tas. Enfin, oui, il y a un problème là-dessus, mais justement, on y travaille avec l'équipe qu'on connaît.
Nous, on essaye de valoriser les démarches qui sont issues d'autres, qui rentrent pas dans ces codes-là, c'est-à-dire tous les parents qui ne vont pas au conseil d'école ou qui sont pas élus parce qu'ils ont l'impression de pas savoir faire, parce que quand ils assistent à une réunion trop technique, enfin ils ont l'impression que c'est trop technique et du coup ils se sentent largués, ils ont pas l'impression, enfin donc du coup en gros l'idée c'est, enfin cette année en tout cas c'était très très clairement dit comme ça, on vous laisse ce champ-là autour de la table avec le directeur. Et par contre, quel espace on peut, enfin, quel espace ils peuvent investir et comment on peut nous valoriser l'espace qu'ils investissent, quoi. Parce qu'il y a des mamans qui accompagnent des classes tous les jeudis à la piscine et elles accordent tout leur jeudi après-midi à l'accompagnement d'une classe. C'est énorme comme investissement, si tu veux. Moi je fais 3 conseils d'école par an et je donne mon point de vue quand on me le demande, ou parfois je le donne quand on me le demande pas. Mais tu vois, c'est pas... Alors après, on essaye de pas hiérarchiser le degré d'investissement et c'est pas ce que nous on fait qui doit être mis en valeur. Au contraire, c'est comment essayer de faire en sorte que chacun ait une place un petit peu...
Puis moi, les mamans qui accompagnent, on a réussi à en faire venir au conseil d'école maintenant aussi. Enfin,
donc à force la mayonnaise prend un peu, quoi.
Alors justement sur les conseils d'école et leur fonctionnement, dans beaucoup d'écoles,
Moi-même, je suis déléguée de parents, comme beaucoup de profs enseignants, dans des quartiers où effectivement, c'est pas du tout représentatif de la population de l'école, le conseil d'école. Mais moi, ce qui me choque énormément, enfin, je suis très peu investie parce que j'en ai assez des conseils d'école, déjà, avec les miens, vu que je suis déjà instite. Généralement, il y a cette espèce d'idée de... ils appellent ça les « on est parents d'élèves ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'expression qui dit « on n'est pas représentant de parents d'élèves », on dit juste « on est parents d'élèves ». Ah non, moi j'ai déjà été parent d'élève l'année dernière, cette année je préfère pas. Donc c'est une sorte de détournement du langage qui est intéressant, parce que c'est assez rare et j'ai l'impression assez difficile à mettre en place le fait d'être effectivement représentant, c'est-à-dire d'arriver au conseil d'école avec, pas forcément un mandat formel, mais enfin avec une vraie représentation des parents d'élèves. Est-ce que vous avez réussi à créer ça par rapport à votre présence au conseil d'école?
C'est un truc qu'on a beaucoup travaillé et qui n'est jamais acquis, parce qu'on l'avait énormément travaillé en maternelle dès que je suis arrivé à la rentrée 2006, là, dès que je suis arrivé à la maternelle. On avait commencé, en fait, avant même la rentrée, par une lutte pour une ouverture de classe. Donc, on n'était évidemment pas encore parents d'élèves, donc on n'était pas élus, parce qu'on n'était même pas encore parents d'élèves, nos mômes n'étaient pas rentrés. Et donc, on s'est retrouvé face à des gens, des connards, des politiciens, des inspecteurs, des machins. Enfin, voilà, on est tous d'accord, je crois, sur la qualité de ces gens-là. Et ils disaient, mais nous, on veut avoir affaire à des gens élus. Enfin, moi, il y a un jour où j'ai répondu ça à des gens de la mairie et à des gens du rectorat, de la même façon, en disant, mais on n'est pas encore parents d'élèves, donc on risque pas d'être élus. Et maintenant, bah, si vous ne nous recevez pas, on s'en fout, on occupe l'école quand même, on n'a pas besoin d'être parents d'élèves. Enfin, on était obligé de mettre une pression. Bon, par contre, on était 40 parents d'élèves, on faisait les réunions en 3 ou 4 langues, et avec des gens qui traduisaient, donc chinois, anglais pour les Indiens, parce que personne ne parlait indien, chinois, anglais, français, arabe, on arrivait à faire des réunions à 40 personnes pour une ouverture de classe, et il n'y avait pas besoin d'être élu. Et on a essayé de garder cette tradition-là après. C'est-à-dire, bon, il y a des élus, ok, parce qu'il faut bien que quelqu'un aille au conseil d'école. Mais ce qu'on faisait, et ça c'était plus facile quand on avait le samedi matin, quand on avait l'école le samedi matin, en maternelle, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Par contre, il pouvait y avoir des parents qui venaient assez facilement, et puis on se faisait une bouffe le midi où tout le monde apportait sa petite spécialité. Et on se faisait une réunion souvent entre 10h et midi, et on faisait une réunion avant le conseil d'école. Bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Puis comme souvent, l'école n'était pas forcément vraiment le problème, parce que l'école maternelle est quand même une bonne chose. C'est souvent bien, bah c'est fait pour les enfants, donc il n'y avait pas trop de problèmes. On parlait des problèmes du quartier. Et les gens, ils avaient tous des choses à dire sur les problèmes du quartier. Et puis on n'était pas toujours d'accord, etc. Mais ça finissait avec un banquet, c'était super. Et ça, bah, c'est la lutte qui nous a amenés là-dedans. Et puis les gens, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas besoin d'être élus pour aller lutter, quoi. Après, on a eu des parents sans papier qui se sont fait arrêter. Pareil, hein, les manifs, on les faisait. Il y avait des gens avec des poussettes, ils ne parlaient pas un mot de français.
On revient
ils
un petit peu.
Juste compris qu'ils se faisaient emmerder et qu'il fallait pas. Parce qu'il y avait plein de sans-papiers dans la manif, et puis on allait devant le commissariat, ils venaient avec leurs poussettes, et ils n'avaient pas peur, etc., parce qu'on arrivait à 100. Et c'était vraiment super. Enfin, ces gens-là, ils n'iront pas au conseil d'école, parce que même quand ils commenceront à parler bien français, ils ne parleront pas français au point de comprendre les difficultés techniques du langage de l'école. Qui sont quand même. Enfin, les conseils d'école, c'est un peu. Enfin, moi qui suis de l'éducation nationale, je comprends pas toujours tout. Alors. Parce que je suis dans le secondaire, je comprends pas tout.
Voilà, chaque degré a ses cibles, ouais, et il y en a beaucoup.
Moi, je suis en collège-lycée, je maîtrise, mais alors l'école primaire, des fois, c'est un peu dur, quoi.
Oui, non, juste, ça rejoint un petit peu l'émission sur la démocratie du mois dernier avec Nathalie, où on a un petit peu deux conceptions de la démocratie qui sont pas les mêmes. J'aurais voulu, effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Eddy tout à l'heure, par rapport à cette... est-ce qu'il y a une légitimité de la fermeture de l'école, sachant que les parents d'élèves, ça peut être vous, là... super, mais ça peut être aussi SOS Éducation qui va demander plus de compétition, plus de contrôle, plus de discipline, plus un discours totalement réactionnaire sur l'école avec une volonté de retour à l'école de la Troisième République.
Ouais, mais eux, faut les sortir à coups de barre. c'est ça la différence entre eux et nous, c'est que nous, on va pas nous sortir à coups de barre, on est gentils, nous.
Attends. Mais bien sûr, Pascal, bien sûr.
C'est pour ça qu'on a écrit un article qui est de l'ordre de l'expérience personnelle. On parle de notre expérience à nous, de ce que nos gamines nous ont dit et du quartier qu'on connaît, quoi. Après, et moi, je me garderais bien d'avoir des éléments trop théoriques, justement, sur les questions d'ouverture de l'école vis-à-vis des parents. Après, moi, j'ai un modèle complètement différent parce que j'étais dans une école publique. civique, mais qui avait une pédagogie de type Freinet, à air ouvert, donc sans mur entre les classes, les profs travaillaient en collectif, et les parents investissaient à l'école, ça faisait partie du projet pédagogique. Donc pour moi, c'est une évidence, si tu veux, que... pour que ce soit cohérent pour les mômes qui vont à l'école tous les jours, il faut que les parents aient un espace à investir. Après, je pense que ce serait mieux venu si soit ça se faisait de concert entre les profs, enfin les instits et les parents, soit bon là nous par exemple, mais encore une fois c'est des exemples on pourrait en trouver mille quoi, que enfin nous on a mis en place une braderie, la braderie ça nous permet de faire rentrer les gens du quartier dans l'école un samedi matin. C'est important que l'école s'ouvre sur le quartier aussi. Après c'est vrai que c'est à côté des évidemment, il peut y avoir le danger. Il y a un mec des SOS Éducation là qui nous fait chier tous les trois mois, nous balancer des. Évidemment, le danger de. Et moi, je comprends les instits aussi hein, qui disent oh là là, ouvrir. Enfin, on parle pas de procédurier, mais il y a des parents qui sont chieurs l'année dernière. Enfin, il y en a dans toutes les écoles.
C'était horrible, mais ça.
Mais c'est pas parce que l'école s'ouvre aux parents que ça va résoudre le problème du chieur. Il sera toujours là, même si l'école est très fermée, puis, lui il sera toujours là et très présent, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des questions délicates qui sont sans trop de réponses.
Oui, et puis on n'est pas toujours d'accord entre nous, parents, entre parents. Par exemple, moi je suis contre l'évaluation, j'en parle souvent dans les réunions de parents, je suis le seul. Enfin, ça y est, on est deux maintenant.
On est deux maintenant, comme si tu avais...
Bah, j'ai commencé un an devant toi à l'école primaire.
Voilà, on voit les divergences des parents de la goutte d'or.
J'ai commencé un an avant. J'ai jamais eu d'évaluation dans tout le primaire, donc je découvre ce que ça peut être.
Ils ont des trucs. Enfin, pédagogiquement, il y a des instits avec lesquels je suis non seulement pas d'accord, mais carrément, je pense que c'est nocif ce qu'ils font.
Ah oui, c'est un autre débat.
Il y a une instit qui a, en gros, appris à ma fille que le passage était de toute façon pas acquis et que il faut avoir des bonnes notes pour passer. Et puis, résultat, ma fille, elle s'est mise à tricher, quoi. Tu vois, enfin, c'est un truc juste, c'est normal en fait qu'elle triche, vu qu'on leur met la pression. C'est comme en sport, on se dope, quoi. C'est normal. Enfin, c'est la méthode veut ça. Et évidemment, après, si on remet pas la méthode en question, vaut mieux. Enfin, c'est bien. Mais si on remet la méthode en question, bah, il y a deux solutions. Soit on en cause vraiment, soit on nous ferme la porte. Bah, ils ont choisi de nous fermer la porte. Et donc, c'est pour ça que ça s'est assez mal passé aussi.
Tu vois, si les mômes ils travaillaient en collectif, ils auraient pas besoin de tricher puisqu'ils ils apprendraient ensemble. Bah, tu vois. Mais après, ça, c'est des conceptions pédagogiques qu'on n'a
souligné
ou soulevé dans l'article.
Puis l'école n'utilise jamais le potentiel d'ingéniosité que les élèves développent au moment de la triche, alors que révélateur de véritables ressorts.
Ouais. Bah, oui.
Mais moi, la question que j'avais à poser, c'était au niveau, en fait, de ce temps à consacrer à l'école. Finalement, quand je vous entends parler, ça me rappelle un peu le temps nécessaire à l'activité politique dans la démocratie telle qu'on la rêve. Et puis d'une certaine façon, je me dis le capital est en train de nous offrir des propositions grâce à l'échec et à l'illusion d'un retour au plein emploi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de parents qui passeront une période de l'année au chômage. Est-ce que derrière, il n'y aurait pas quelque chose à inventer en déculpabilisant un peu ce chômage par lequel on passe tous assez régulièrement, comme justement du temps de disponibilité pour ce type d'activité qui justement valoriserait précisément les parents qui ne peuvent pas être représentés d'habitude.
Alors moi je crois vachement en l'investissement, la cause politique mais locale quoi. La notion de quartier, je suis en train de la développer, je trouve que c'est magique quoi. Et puis pour moi en tout cas au quotidien ça a plus de sens, tu vois, de lutter pour des dans le lieu où j'habite parce que c'est plus facile, parce que c'est et je trouve ça fort justement parce que ça permet ce que tu dis quoi, de valoriser plein de savoir-faire et plein de choses qui par ailleurs sont écrasées parce que à la place d'être chômeur tu deviens quelque chose de plus positif et constructif dans le regard de l'autre quoi. Enfin,
et tu penses qu'on pourrait imaginer un statut comme ça qui exempt les parents de leur recherche de travail parce qu'ils ont prouvé leur utilité dans leur disponibilité.
Quand tu regardes les associations, elles tiennent avec les chômeurs, les étudiants, les retraités. C'est que des des gens qui sont considérés comme, enfin tu vois.
Bah, alors qu'on sait que c'est des activités qui pourraient provoquer une radiation dans les politiques du Pôle emploi aujourd'hui, bien parce qu'elles attestent d'une non-recherche de.
Le nombre de retraités qui s'occupent des petits enfants et qui permettent aux parents de s'en sortir un peu parce qu'ils n'ont pas de babysitter, etc. Enfin, tu vois, c'est sûr, c'est pas des inutiles au monde, au contraire, quoi. Bien au contraire, ça a un sens concret que je trouve vachement fort.
Oui, parce qu'effectivement, un des liens entre l'école et la famille, malheureusement, bien souvent, c'est les devoirs. C'est-à-dire
L'école reste fermée, si elle nous ouvre pas sa porte, en tout cas, elle rentre jusqu'à chez nous, jusqu'à parfois tard le soir.
Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement des enseignants dont j'ai pu faire partie à certains moments, parce qu'on se rend pas forcément compte, en particulier quand on n'a pas d'enfants, que pour la famille, l'école n'est pas le seul univers et la seule préoccupation, que les parents voient leur enfant une heure et demie par jour quand ils restent à l'étude, et qu'ils n'ont pas forcément envie de refaire, de se faire une heure de devoir le soir, et surtout que les enfants sont fatigués après l'école. Et rappeler peut-être, et Pascal a fait une petite recherche pour le numéro de notre école justement, le fait que officiellement, les devoirs sont interdits. Les devoirs écrits sont interdits. Alors, Pascal, tu t'étais un peu documenté sur cette question des devoirs.
Le temps de revenir de la technique. Oui, bah, oui, donc c'était intéressant parce qu'on écrivait l'article avec Anne-Julie et au comité de rédaction, on avait déjà prévu de faire une page sur le travail à la maison. Et donc, je m'étais dit que ça conviendrait parfaitement vu qu'on en parle dans notre article. On parle aussi du fait que d'un coup, en CP, il se met à y avoir des devoirs à la maison qu'on comprend pas très bien nous-mêmes, enseignants, ce que ça peut vouloir dire, ce qu'il y a vraiment à faire. Quand, par exemple, mon expérience, c'était que dès les deux premières semaines, tous les soirs, il y avait lire un texte. C'était marqué dans le cahier de texte, lire un texte. Sauf que ma môme, elle savait pas lire. Alors je savais pas ce que ça voulait dire lire le texte. Moi, j'y arrivais super bien à le lire. Il y avait deux phrases. Aujourd'hui, je suis allé à l'école et tout. Et donc, bon, la môme, évidemment, elle connaissait le texte par cœur parce qu'ils avaient dû le lire 12 fois en cours.
C'était juste l'aide de Guy Mocquet.
Ma chère petite maman. Ma chère petite maman. Et en fait, le truc, c'est que au bout d'un moment, je savais pas trop quoi faire. Je suis allé voir l'instit. J'ai dit, ça veut dire quoi lire un texte quand on sait pas lire encore? Et après, elle m'avait expliqué, c'était de manière très sympa, qu'il suffisait d'essayer de voir si elle pouvait reconnaître des mots, si elle connaissait la phrase, etc. Enfin, juste, je me suis dit, si tous les parents prennent un rendez-vous un soir avec elle pour lui demander ce que ça veut dire lire, bon, déjà, clairement, il y a plein de parents qui ne devaient pas le faire. Plein de parents qui devaient se dire, putain, mon fils, il doit être trop con, ma fille, elle doit être trop conne parce qu'elle ne sait pas lire le texte. Alors qu'en fait, dans la classe, s'il y avait un môme qui savait lire, c'était bien le maximum, quoi. En début de CP et qu'à la fin du CP ils savaient tous pas toujours lire quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire lire, voilà, et pourquoi leur donner ce devoir là, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pour mettre la pression, est-ce que c'est juste pas réfléchi, et bon bref, j'avais pris ça un petit peu comme un truc un peu agressif et je savais que les devoirs écrits étaient interdits. Et quand on a écrit cet article, en plus, entre-temps, moi, ma fille avait fait le CE1, et puis en CE1, il y avait un peu plus de devoirs. Puis en CP, déjà, il y en avait pas mal. Et puis en plus, toi, ta fille, Anne-Julie, en CP, on avait eu un paquet aussi des devoirs. Et donc, on s'était dit, ça va bien aller, on va faire une petite recherche là-dessus. Je me connecte sur Internet, je clique sur un moteur de recherche que Salah adore. T'auras peut-être l'occasion. En fait, ils ont fait une émission, Salah, il est du syndicat de l'informatique, ils ont fait une émission sur...
Google,
voilà. Ouais. Et hier, pour expliquer tous les méfaits de Google, et bon, je suis donc désolé, j'ai tapé sur Google « Devoir à la maison ».
Le et premier du coup, t'avais des publicités indiqué, de Acadomia et Complétude.
Probablement, enfin, ouais. j'ai cette capacité à faire abstraction des publicités qui est assez importante. Mais en tout cas, je suis tombé sur le premier site que proposaient nos amis de Google. C'était un site très officiel, qui était le site de l'Académie de Lille, qui avait une page spéciale sur les devoirs à la maison. Et quelle n'a pas été ma surprise, en fait, sur les arguments anti-devoirs à la maison qui étaient développés sur ce site. Donc déjà, j'étais un peu étonné de voir qu'un site très officiel avait que des arguments contre les devoirs à la maison. Bon, il y en a un ou deux qui sont vraiment pourris, mais les cinq autres arguments, ils étaient parfaits, quoi. Sur le fait que ça accroît les inégalités, etc. Et donc, c'est l'article le plus facile à écrire de toutes les articles que j'ai écrits, qui sont pas très nombreux, mais... Ça a été trop facile. J'ai pris des citations dans l'article, et voilà. Et c'était, par exemple, la préoccupation des familles pour les devoirs est exagérée. C'est écrit, oui. Texto, noir sur blanc, et c'est dans un site super officiel, quoi. Et en effet, ça crée au sein des familles une pression psychologique sur ce que l'enfant doit réussir à faire à un moment où l'enfant n'est pas prêt psychiquement, mentalement à le faire, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a déjà trop travaillé, parce qu'il a besoin de jouer. L'enfant a besoin de jouer, c'est un truc que l'éducation nationale ferait bien de découvrir un peu plus souvent, au moins. Parce que l'éducation nationale, elle le sait, hein, que tous les mômes, ils ont des devoirs à la maison le soir.
C'est une
mais elle n'en a rien à battre.
La maternelle et la primaire. Ça.
Et le voilà, jeu, en maternelle.
Apprendre par le voilà. jeu.
Il n'y en a pas des devoirs, quoi. Ils jouent et ils apprennent. Et voilà, en primaire, terminé, quoi.
Sur les devoirs, en fait, vu qu'il y a pas mal d'inégalités sociales, et en plus, avec les problèmes d'emploi du temps et tout ça, je voulais savoir si ce serait pas une bonne idée, par exemple, en fait, après les cours, en fait, de faire des petits groupes de travail avec les mômes, quoi, chez quelqu'un, et en fait, de faire faire les devoirs et qu'ils le fassent collectivement.
On essaye de faire ça, mais c'est parfois compliqué. Mmh. C'est parfois compliqué parce que, du coup, il faut non seulement du temps, de l'investissement, etc. Et puis, moi, je suis terrifiée par le fait de... Il y a des gamins de 6-7 ans qui sont déjà en échec scolaire et j'ai pas les capacités de reprendre tu vois moi toute seule cet échec là quoi. Enfin c'est lourd hein, il y a des mômes limite ils ont leur carrière toute tracée et ça c'est un vrai sujet. Enfin moi c'est aussi pour ça que je voulais écrire. Enfin je suis horrifiée par ce que l'école provoque non seulement comme reproduction des inégalités et puis en plus comme frustration et comme et donc du coup c'est ce qu'on essaye de faire et en même temps c'est très compliqué de réussir à repêcher les mômes qui s'en sortent déjà mal alors qu'ils ont 6 ans ou 7 ans ou 8 ans quoi.
Et puis le problème n'est pas tant le fait d'aider les enfants à faire leurs devoirs que en fait il vaudrait mieux que les enfants n'aient tout simplement pas de devoirs. Tout ça, parce qu'ils ont déjà des journées, surtout ceux qui restent jusqu'à l'étude. Bon, à la limite, ils peuvent vaguement faire leurs devoirs à l'étude, mais pas toujours. Mais après, ils peuvent avoir des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers bleus, des activités dans l'école, etc. Donc, ils ont déjà une journée de 6 heures qui est très, très dense. Depuis que le samedi matin a été supprimé, les programmes ont été alourdis. Donc, c'est des journées où ils n'ont quasiment aucun moment de répit, les enfants. Ils arrivent le soir.
Ils restent 9 heures. Hein. S'ils sortent à 5h30 du soir, ils restent 9 heures par jour à l'école. 4 jours par semaine, ça fait 45 heures par semaine.
Voilà.
Et ils sont même pas payés.
Et donc,
plus qu'à la fac au lycée.
Dans les textes, ce qui est dit, c'est que les leçons sont autorisées, c'est-à-dire les devoirs oraux, mais les devoirs écrits sont interdits. Ce qui est en fait une hypocrisie. Parce que, en tant qu'instit, apprendre une leçon, enfin, je vois bien qu'apprendre une leçon, si on n'est pas aidé à la maison par des parents qui en ont les capacités, parce qu'ils ont eux-mêmes été à l'école, ou parce que, et puis parce qu'ils ont le temps, il y a aussi beaucoup de parents qui travaillent, etc. C'est presque plus dur d'apprendre une leçon tout seul que de faire un petit exercice d'application, par exemple. Donc c'est pas tant la problématique écrit-oral, ni la problématique aide ou pas, parce que aider des enfants quand ils ont déjà une journée d'école derrière eux, c'est quasiment mission impossible. Et puis, est-ce que c'est souhaitable pour les enfants d'avoir finalement...
Quand t'as une petite sœur qui est en train de jouer à côté.
Voilà, d'avoir 10 heures de concentration dans la journée. Ils ne peuvent pas, tout simplement. Donc ce qu'il faudrait, c'est que sur le temps scolaire, on arrive à mettre en place le temps d'apprentissage, le temps d'entraînement, le temps de découverte, le temps de plaisir d'apprendre, et même peut-être le temps libre, par moment.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis parce que je trouve que tu évacues un peu vite la question de l'oral et de l'écrit. Parce qu'au niveau de l'inégalité sociale, on sait que l'oral est quand même la possibilité pour les gamins issus des milieux les plus défavorisés de saisir à la volée le savoir quand il se présente, d'apprendre à formuler, ouais, à condition qu'il lève la main. Mais puisque là, vous venez de rater Pascal qui faisait le jeune blanc bec, l'arrêt sur le côté au premier rang qui n'ose même pas lever le doigt. Mais tu vois, sans remonter à ce que parler veut dire de Bourdieu, etc., on sait quand même que, a priori, l'écrit, c'est les classes dominantes, l'oral, c'est les classes populaires. Et il y a quand même un peu un truc, on a tous en tête l'exemple typique de la première de la classe aux parents très éduqués, qui avait les meilleures notes de la classe et qui avait sur son bulletin devrait plus participer à l'oral. Pourtant, elle sait très bien que si elle participe à l'oral, elle est ici et maintenant, elle est peut-être pas mieux armée que le gamin qui va dire une connerie mais qui va penser à voix haute et qui va pouvoir quand même développer son idée, être corrigée direct, alors qu'une fois rentrée à la maison, une fois qu'elle aura retrouvé ses parents, tout son bagage et son environnement va pouvoir lui faire franchir plus vite la haie.
Sincèrement, c'est ce que tu décris, c'est la valorisation de l'écrit. Il y a des mômes qui sont bilingues ou trilingues, ce qui est quand même une chance que j'ai pas moi. Tu vois, enfin, c'est un savoir qui est complètement sous.
Parce que tu vois, je me rappelle d'un conseil de classe de terminale où on disait à propos d'élèves, c'est dramatique, à l'oral c'est merveilleux, à l'écrit c'est pourri. Et puis on avait répondu, ben pourquoi il y aurait pas plus d'oral ? Et puis tout le monde avait rigolé. Et puis bon, t'arrives à la fac l'année d'après, t'as la moitié de ta note dans les matières qui est des exposés, c'est de l'oral. Hein.
Mais pour revenir à ce que disait Nadia, c'est que elle parlait pas de l'oral et l'écrit en tant que valorisation de l'oral, mais c'est que en fait dans les textes dont je parlais tout à l'heure là. Finalement, pour pas trop se mettre à dos les enseignants qui adorent donner du travail aux enfants, ils les autorisent à donner des leçons à apprendre. Les textes officiels interdisent les devoirs écrits, mais autorisent les leçons à apprendre.
De la lecture,
c'est-à-dire, voilà, c'est pas vraiment de l'oral en fait.
L'essentiel de la révision, voilà. Ou de l'apprentissage par cœur.
Voilà, il y a des trucs comme ils appellent ça du travail oral. En fait, c'est pas du travail oral, c'est une façon de préparer son écrit.
Et donc l'oral, c'est en classe, c'est en groupe.
Oui. Non.
Là-dessus que je voulais.
Oui, non,
que
je parlais du travail à la maison. Effectivement,
le problème c'est une préparation de l'écrit.
Parce que c'est plus le présent ou la projection, quoi. Parce que finalement, l'effet pervers des devoirs et de leur dimension notée et leurs effets sur les classements, là pour le coup c'est au sens propre valoriser le cadre dans lequel t'es quand tu rentres à la maison, quoi.
C'est clair.
L'heure tourne.
Ah, oui.
Et on a encore beaucoup de choses à dire sur la Tunisie. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure sur cette question de l'école, de
Vas-y,
la famille?
Non, pas de conclusion, plus une ouverture, t'en as une, toi?
Ah ouais, en fait, sur la reproduction sociale, chez Gérard Bourdieu, en fait, je l'ai vu, parce que j'étais dans les collèges de Bourges, et à la fois dans les collèges pourris, lycée de Bourges, lycée pourri. En fait, c'est marrant de voir que, tu vois, des gens avec qui j'étais au collège, qui étaient vraiment super mauvais en classe, enfin, tu vois, t'es vraiment les derniers des abrutis. Enfin, vraiment bêtes, hein, je parle pas nul à l'école, mais vraiment bêtes. En fait, c'est marrant de les voir tous devenus médecins, dans le commerce, tu vois, avocat, machin, quoi. Donc c'est marrant en fait que voir que les Bourges ne perdent jamais. C'est même quand ils sont très mauvais à l'école, tu vois, il y a toujours des voies de rattrapage pour des boîtes à bac et des écoles de commerce bidon, enfin ce que j'appelle des garderies, quoi, et tout ça pour
qu'ils s'en sortent toujours, quoi. Hein.
Ouais.
Mais sinon, ah oui, tu voulais faire une ouverture. Ouais, ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, on a écrit un article sur ce qu'on a fait et qui nous manque un peu en maternelle. Et ce qu'on essaye de faire, qui est vraiment dur et long, mais finalement, ça marche un peu quand même. À l'école élémentaire, maintenant, on arrive à parler avec quasiment tout le monde. On arrive à connaître un peu les gens, même si, et c'est sûrement pas étonnant, et c'est sûrement dans plein d'écoles, on connaît toujours pas les agents de service, par exemple, à l'école élémentaire. Alors qu'à l'école maternelle, on les connaissait tous par leur prénom et on se tutoyait. Et voilà, c'est pas un hasard. Mais ça évolue petit à petit. Voilà, on arrive à parler avec les instituts, on arrive à parler avec le directeur.
On les arrive. Les animateurs au dernier conseil.
Voilà, les animateurs, on commence à les connaître. On a essayé de s'investir dans plein de choses, dans le fonctionnement de la cantine, et ça a marché. Dans le fait qu'ils refassent la rue, qui est une rue immonde, qui pue, qui est moche, qui est dévastée, délabrée, dangereuse. Et ben voilà, la mairie, elle va la refaire. Et on va avoir une belle rue comme à côté de la mairie et tout, enfin comme dans les quartiers de la mairie, enfin donc voilà, ça il y a des choses qui se passent. Bon, par contre, c'est dans le côté pédagogique qu'on n'arrive pas du tout à rentrer, mais on a commencé, et ça va se mettre en place normalement cette année, des commissions. Alors, on sait pas du tout quelle forme ça va prendre exactement, mais de discussions entre parents et avec parents et profs dedans, où on va parler de choses qui sont qui peuvent pas être abordées dans le conseil d'école, en particulier l'évaluation,
alors,
la pédagogie,
les
des choses comme
sujets,
ça.
Alors les trois sujets, c'est l'évaluation, base élèves.
C'est moi qui ai mis l'évaluation dans le truc.
J'ai mis base élèves et les devoirs à la maison, quoi.
Voilà. Donc on peut petit à petit essayer d'avancer.
Vous avez quand même bien avancé, parce que ce genre de travail, c'est quand même très rare sur les écoles, et c'est
Mais par rapport à ce qu'on faisait à Marcadet, c'était enfin.
Oui, mais Mais pour, effectivement, par rapport aux écoles primaires, c'est déjà un sacré boulot.
Ouais.
C'est super. Il
reste sachant qu'on a une équipe vachement considérée comme vachement ouverte. Hein. Mm. C'est quand même la goutte d'or et tout. C'est pas les profs du 16e quoi, qui de toute façon n'auraient jamais parlé. Enfin, les parents leur en parlent pas non plus, j'imagine. Mais voilà, c'est quand même une école qui est censée être dans les écoles ouvertes. Et voilà, on a quand même du mal quoi.
Et alors, dans ces petites réunions, il y aura des enfants?
Et bah, ça c'est une super grande question et peut-être notre prochain combat ce sera de faire rentrer les enfants au conseil d'école.
Voilà, on avait une petite parole d'enfant pour conclure justement sur toutes ces questions-là, mais malheureusement la technique est contre les enfants. Voilà.
Voilà, le MP3, ça s'écrit en minuscule et pas en majuscule, sinon ça marche pas. Voilà.
C'est moi la fautive.
Tu feras des lignes de MP3.
Mais non, mais ça je le savais pas non plus jusqu'à ce que ça veuille pas marcher en début d'heure. Voilà.
Quel dommage. Bien. C'est pas grave, on a quand même finalement les parents.
Je veux pas faire mes devoirs sur l'art de l'international, c'était sympa.